VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque djihadiste suivie d'affrontements intercommunautaires à Arbinda s'établit maintenant à 62 morts.
En République démocratique du Congo, panique à Lubumbashi dans la nuit de mercredi à jeudi au sein de la population de la commune de Katouba au quartier Katouba-Upemba.
Pendant ce temps, soutien du secrétaire d'État américain Mike Pompeo au programme de changement du nouveau président congolais Félix Tshisekedi, reçu à Washington.
En Algérie, première mesure d'ouverture du nouveau gouvernement hier, au lendemain de la démission du président Abdelaziz Bouteflika.
Ici à Washington, des leaders parlementaires démocrates réclament le rapport du procureur spécial Robert Mueller et les déclarations d'impôts du président républicain Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 62 personnes ont été tuées entre dimanche et mardi dans des attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires à Arbinda, dans le Sahel burkinabé. C'est ce qui ressort d'un nouveau bilan annoncé hier soir par le ministre de l'administration territoriale. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Il y a eu 62 décès, nous avons 32 morts du fait des terroristes, nous avons 30 qui sont décédés du fait des conflits communautaires, des représailles entre communautés, Kurumba, Peul, Mossi, etc., a affirmé le ministre Siméon Sawadogo à la télévision. Les djihadistes ont pourchassé les gens et ont commis des tueries. Les terroristes ont également enlevé 9 personnes qu'ils détiennent, a-t-il indiqué. Dans la nuit de dimanche, des individus armés ont pénétré dans le village de Hamkan, situé à 7 km d'Arbinda, où ils ont assassiné le cheikh, le leader religieux du village, son fils aîné et son neveu. Suite à l'assassinat du cheikh Werem, il y a eu des échauffourées entre les communautés à Arbinda qui ont entraîné des représailles de part et d'autre, a indiqué le ministre Sawadogo, regrettant une situation déplorable. La situation sécuritaire est telle que personne n'est à l'abri. Un dispositif de sécurité supplémentaire a été envoyé à Arbinda, a poursuivi M. Sawadogo. Au Burkina Faso, tout comme au Mali, les tensions dégénèrent périodiquement en violence entre peuples traditionnellement éleveurs, souvent nomades et musulmans, présents dans toute l'Afrique de l'Ouest et autochtones agriculteurs. Certains membres de la communauté peuls ont rejoint des groupes djihadistes et il n'est pas rare que des populations fassent l'amalgame entre peuls et djihadistes et opèrent des représailles sanglantes sur fond de conflits intercommunautaires.
Et nous reviendrons sur ces récentes tueries au Burkina Faso en seconde partie de cette édition.
En République démocratique du Congo, notre correspondant Narval Mabila à Lubumbashi nous signale la panique dans la nuit de mercredi à jeudi au sein de la population de la commune de Katouba, au quartier Katouba-Upemba. Selon lui, les habitants ont entendu des tirs d'armes alors que, je cite, « l'insécurité a atteint un niveau inexplicable et que des tracts ont été distribués pour annoncer des attaques par des hommes en armes ».
Pendant ce temps, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a exprimé hier son soutien au programme de changement du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, reçu à Washington. M. Pompeo a salué un programme axé sur la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance, la promotion des droits de l'homme, la stabilité et la sécurité, selon un communiqué du département d'État américain. Pendant sa visite aux États-Unis jusqu'à vendredi, M. Tshisekedi doit être reçu par plusieurs hauts responsables américains, mais aucune rencontre n'est prévue à ce stade avec son homologue Donald Trump.
Le nouveau gouvernement algérien a pris hier ses premières mesures d'ouverture, notamment en direction de la presse, de l'opposition, des associations et des syndicats, au lendemain de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, cible d'une contestation populaire inédite. Irénée Herman Ungo.
Une de ces mesures concerne l'attribution de la publicité publique à la presse, souvent accusée d'être un instrument politique pour récompenser les médias conciliants et punir les critiques. Le gouvernement va également procéder à l'examen et au traitement des demandes d'agrément déposées par les partis politiques et les associations au ministère de l'Intérieur et par les syndicats au ministère du Travail. Les activités des partis, associations ou syndicats sont soumises à la délivrance d'un agrément par les autorités régulièrement accusés de refuser sans justification ou de laisser les demandes sans réponse, ce de façon illégale. Depuis plus d'un mois, les Algériens manifestent chaque vendredi pour réclamer le départ du système au pouvoir. Un collectif d'une vingtaine d'associations impliquées dans la contestation a appelé mercredi la population à manifester à nouveau massivement vendredi prochain pour maintenir la pression et obtenir le départ du système.
Visite surprise hier du secrétaire général de l'ONU en Libye, un pays qui cherche toujours à sortir de plusieurs années de chaos. Des détails avec Lionel Gaïma.
Je viens juste d'arriver en Libye, totalement engagé à soutenir un processus politique dirigé par les Libyens conduisant à la paix, la stabilité, la démocratie et la prospérité pour le peuple libyen, a tweeté Antonio Guterres. Son séjour intervient alors que se prépare la conférence de Ghadames dans le centre de la Libye. Prévue du 14 au 16 avril, cette rencontre doit aboutir à une feuille de route qui ouvrirait la voie à des élections présidentielles et législatives. Une autre conférence à l'initiative de l'Union africaine doit se tenir en juillet à Addis Abeba aux fins de réconcilier les différentes parties libyennes. La Libye reste divisée entre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et dirigé par Fayez al-Sarraj et l'administration rivale basée dans l'est du pays et dirigée par le général Khalifa Haftar. Pour éviter tout risque de confrontation majeure et créer les conditions pour stabiliser la situation en Libye, il est essentiel d'unifier les institutions, a déclaré le secrétaire général onusien mercredi avant de quitter le Caire pour Tripoli.
Le 7e sommet des pays africains producteurs de pétrole s'est ouvert hier à Malabo, en Guinée équatoriale. Plusieurs ministres des hydrocarbures et représentants de compagnies pétrolières du continent y sont réunis jusqu'à demain. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le monde aujourd'hui exige de nous un changement de politique dans la gestion de nos ressources, a déclaré le président Teodoro Obiang Nguema dans son discours d'ouverture. Il a exhorté les autres pays africains à adopter des politiques communes pour s'affranchir de la dépendance aux économies des pays développés. Les pays producteurs de pétrole ont subi la chute des prix du baril en 2014. Si le cours de l'or noir est depuis remonté, il n'a toutefois pas retrouvé son niveau d'avant la crise. Début décembre, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, ont décidé de durcir leur accord de limitation de la production pour faire remonter les coûts. Cette décision visait entre autres à faire face au boom du pétrole de schiste aux États-Unis, premier producteur mondial qui pousse les cours à la baisse. Les défis sont encore gigantesques, a déclaré le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Barkindo. Près de 900 délégués de 38 nationalités ainsi que 13 entreprises nationales africaines sont présents au sommet, selon le ministre des Mines et Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, Gabriel Mbanga Obiang Lima.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président démocrate d'une puissante commission de la Chambre des représentants, Richard Neal, a officiellement demandé au fisc américain de lui livrer les 6 dernières déclarations d'impôts du président républicain Donald Trump, ainsi que celles concernant plusieurs de ses sociétés. Les démocrates, dit-on, tentent de faire la lumière sur les transactions financières complexes de M. Trump et sur des conflits d'intérêts potentiels. C'est la première fois depuis Richard Nixon, il y a 45 ans, que le Congrès fait ce genre de requête concernant un président en exercice. M. Trump a dit qu'il ne peut pas publier ses déclarations d'impôts à cause d'un audit du fisc. On s'attend donc à une âpre bataille judiciaire entre les deux camps.
Les démocrates de la Chambre des représentants ont d'autre part engagé un bras de fer avec la Maison-Blanche sur le rapport du procureur spécial Robert Mueller concernant l'ingérence de la Russie dans les élections de 2016. Michel Joseph.
Majoritaire à la Chambre des représentants, les démocrates ont réussi à faire adopter une mesure permettant au président de la Commission des affaires judiciaires, Gerald Nadler, de demander une copie complète du rapport Mueller. La mesure autorise aussi Nadler à adresser des assignations à comparaître à 5 anciens collaborateurs du président Donald Trump, notamment l'ancien conseiller politique Steve Bannon et l'ancien avocat de la Maison-Blanche Donald McGahn. Pour sa part, le président Donald Trump a dit à diverses reprises avoir donné au ministre de la Justice William Barr la latitude de publier tout le rapport Mueller ou une version expurgée. Toutefois, le chef de l'exécutif américain pourrait faire valoir le privilège présidentiel qui lui donne le droit de bloquer certaines informations du rapport ou d'autres sources. Chaque camp défendant vigoureusement sa position, l'affaire pourrait bien aboutir devant la Cour suprême américaine. Dans un résumé de 4 pages publié le mois dernier, le ministre de la Justice avait fait savoir que la Russie avait bien tenté d'influencer la présidentielle de 2016, mais que le rapport Mueller n'a trouvé aucun indice d'une collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump.
Ajoutons que des membres de l'équipe du procureur spécial Mueller accusent M. Barr de ne pas avoir rendu compte de façon adéquate, citation, dans son résumé des résultats de leur enquête, rapporte mercredi le New York Times. Selon les sources anonymes citées par le quotidien new-yorkais, ces résultats seraient, je cite encore, plus préoccupant pour Donald Trump que ne l'a laissé transparaître le ministre de la Justice.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Nanit Talani.
Les autorités tanzaniennes accusent le directeur général de Vodacom Tanzanie et d'autres dirigeants du secteur des télécommunications de crimes économiques. Selon des documents judiciaires consultés par l'agence Reuters, ils ont organisé un racket criminel occasionnant au gouvernement des pertes pécuniaires de plus de 2,55 millions de dollars. Les accusés ont été placés en garde à vue jusqu'à ce que l'affaire soit considérée le 17 avril. Deux institutions de microfinance d'Afrique de l'Ouest recevront un prêt de 13 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement via la Fondation Grameen Crédit Agricole. Une partie de ce financement ira au Sénégal, au bénéfice de la coopérative autonome pour le renforcement des initiatives économiques qui cible des micro-entrepreneurs et des femmes à faible revenu. PAMEF BF, première agence de microfinance au Burkina Faso, qui octroie des microcrédits aux entrepreneurs agricoles, bénéficiera également de cette ligne de crédit. Pour finir, trois ans après le scandale des Panama Papers, les 22 États concernés par ce tentaculaire scandale d'évasion fiscale ont à ce jour réussi à recouvrer 1,2 milliards de dollars selon le consortium d'enquête à l'origine des révélations. Le fisc britannique a collecté auprès des fraudeurs 252 millions de dollars, suivi de l'Allemagne avec 183 millions de dollars. La France a pu récupérer 149 millions de dollars.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Oui, clos levé pour le match CS Constantine Espérance.
Oui, le CS Constantine va recevoir l'Espérance de Tunis ce samedi pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Constantine pourra bénéficier du soutien de ses supporters pour ce choc face au sang et or de Tunis. Après avoir infligé un huis clos pour ce match, la CAF est revenue sur sa décision après un appel de la direction du club du CS Constantine. Cette sanction sera désormais d'un match à huis clos avec sursis. Pour rappel, cette décision avait été prise après les incidents survenus au stade Amlaoui lors du match de la phase de poule contre le club africain.
Paris rejoint Rennes en finale.
Oui, le PSG s'est ouvert une nouvelle fois les portes du stade de France où il défendra le 27 avril contre Rennes ses 4 titres consécutifs en Coupe de France. En demi-finale hier, les Parisiens ont éliminé le FC Nantes 3-0 au Parc des Princes. La série victorieuse du PSG en Coupe de France s'étend désormais sur 29 matchs d'affilée et Paris n'a encaissé aucun but dans la compétition cette saison. La Coupe n'est pas encore alignée sur l'armoire à trophées des Parisiens qui devront pour cela battre des Bretons capables de faire tomber Lyon mardi au terme d'une demi-finale à suspense 3-2.
En finale, le PSG pourra peut-être compter sur Neymar qui a repris l'entraînement hier.
Oui, comme prévu, la star brésilienne a repris l'entraînement pour les tests terrain, a indiqué le PSG sur son compte Twitter. D'après le club parisien, un bilan médical et radiologique complet sera réalisé par les spécialistes dans 15 jours. Blessé contre Strasbourg le 23 janvier dernier en Coupe de France, Neymar a suivi un traitement conservatif qui lui a évité un deuxième passage sur la table d'opération en un an pour le même os du pied droit. L'objectif du Brésilien sera d'être apte à jouer la finale de la Coupe de France le 27 avril.
Le Bayern qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne.
Oui, le Bayern Munich s'est qualifié à domicile en battant l'équipe de deuxième division de Heidenheim 5-4. Le Bayern reste en course pour un doublé, mais cette prestation à trois jours du classiquet contre Dortmund, qui pourrait décider du championnat, n'est guère de nature à rassurer les supporters bavarois. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Indiana et Détroit 108 à 89, Orlando et New York 114 à 100, Chicago et Washington 115 à 114, Atlanta et Philadelphie 130 à 122, Toronto et Brooklyn 115 à 105, Boston et Miami 112 à 102, Charlotte et la Nouvelle-Orléans 115 à 109, Minnesota et Dallas 110 à 108, Denver et San Antonio, 113 à 85.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Poursuite de notre série sur la commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda, pour un autre témoignage, Idriss Fall, notre envoyé spécial à Kigali, s'est rendu à Nera, dans la banlieue de la capitale. Sa fille Mukundwa avait 7 ans et a survécu au génocide. Les milices Interahamwe ont tué sa mère et son frère. Après avoir reçu des coups de machette, elle a été abandonnée par ses bourreaux qui l'ont prise pour morte. Aujourd'hui, la jeune femme, âgée de 32 ans, consacre sa vie à aider les filles mères. Sa Fille Life Organization forme chaque année 50 filles mères à la couture et elles viennent au centre de formation avec leur bébé.
Je m'appelle Mukundwa Safi. Notre organisation s'appelle Safi Life Organization. Nous enseignons les femmes à coudre avec les machines et à travailler avec les meubles.
Et comment est-ce que toutes ces femmes sont venues vers vous?
Nous travaillons avec le secteur et le district. C'est le secteur qui nous donne les bénéficiaires. Ce sont des filles qui ont eu des enfants avant 17 ans.
Est-ce que c'était des viols ou bien c'était comment elles ont eu ces enfants?
Ce sont de différentes catégories. Il y a les violets, il y a l'ignorance aussi. Elles ne savent pas quoi faire avec la pauvreté. Donc, elles peuvent avoir des enfants facilement parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'être à l'école pour bien instruites, pour ne pas avoir les enfants avant le temps.
Vous leur apprenez la couture, après elles font quoi?
Après la couture, elles forment les groupes. Nous les aidons avec les machines. Ils commencent à travailler pour elles-mêmes.
Et la formation dure combien de temps?
La formation prend une année, 6 mois de pratique, 6 mois pour les essayer de travailler ensemble, les donner aussi les différents cours, les droits de base, les éduquer aussi à aider leurs enfants.
Comment est-ce que vous êtes venue cette idée d'aider les femmes?
Pendant le génocide, j'avais 7 ans, mais lorsque j'ai perdu toute la famille, lorsque j'étais à l'hôpital de Kibuye, j'ai promis au Seigneur que si je survivais, j'aiderais beaucoup de personnes que je paie.
Et comment est-ce que vous avez mis en place ça, les bâtiments, les machines?
Lorsque j'étais à l'école secondaire, j'ai donné le témoignage à Kigali Memorial Center. Puis j'ai eu la chance de rencontrer avec beaucoup de personnes, différentes personnes. Il y a une blanche américaine qui s'appelle Devon Ogden. Il m'a demandé qu'est-ce qu'elle peut m'aider moi-même. J'étais en 5e secondaire. Et je lui ai demandé de m'aider, d'aider les autres. Comme j'avais le fardeau d'aider les autres, donc il m'a aidé d'aider les autres. C'est comme ça que nous avons commencé Safe Life.
À 7 ans, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que vous avez perdu vos parents pendant le génocide?
Oui, à 7 ans, on est assez grand pour connaître toutes choses.
Ça s'est passé comment?
Nous sommes devenus de Kibuye. Nous étions allés à Stade de Gatwaro. Donc, les Nerms sont venus. Ils sont venus, ont tué beaucoup de personnes. J'ai perdu la famille. Mais lorsque nous sortons à Stade de Gatwaro, j'étais avec ma mère, avec mon grand frère, que j'ai perdu après 2 jours. Les Inerams qui ont tué ma famille, ce sont eux qui m'ont aussi coupé avec les machettes. Donc j'ai servi et connais que j'étais aussi morte.
Et maintenant vous êtes mariée, vous allez bientôt avoir un bébé?
Oui, je suis mariée, j'ai aussi 2 garçons, bientôt j'aurai un 3e enfant.
Sophie ou Safi Mukundwa, leader de l'association Safi Life Organization, qui aide les filles mères au Rwanda.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
À Arbinda, dans le Sahel burkinabé, au moins 62 personnes ont été tuées, dont 30 dans des affrontements intercommunautaires, selon le gouvernement. Aussi, 9 personnes ont été enlevées par des terroristes présumés. Le pays retombe donc dans le cycle infernal d'une violence qui, début janvier à Yergou, dans le centre nord, avait fait 49 morts selon les autorités et plus de 200 selon des organisations de la société civile. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré fait le point.
Tout est parti le week-end dernier. Arbinda, une localité située à plus de 250 km de la capitale burkinabé, dans le Sahel, a été la cible d'une attaque terroriste suivie de violents affrontements intercommunautaires. 62 personnes ont été tuées.
Il y a eu 62 décès, effectivement.
Siméon Sawadogo, ministre de l'administration territoriale.
Nous avons eu 30 personnes qui sont décédées du fait de conflits communautaires et nous avons 32 qui sont du fait des terroristes qui ont pourchassé les gens et qui ont fait des tueries. Donc ça fait 32 personnes, c'est ça qui fait l'ensemble des 62. Et les touristes ont réussi malheureusement à lever 9 personnes qui sont en leur possession à l'heure actuelle.
Le week-end, le guide spirituel de la localité a été tué, ainsi que 3 autres membres de sa famille par des présumés terroristes. Depuis lors, la tension est montée d'un cran à Arbinda. Maguid Maïga est habitant à Arbinda. Pour lui, difficile d'expliquer comment cela a pu bien arriver.
Ça va devoir démarrer les dimanches et lundi premier là. Donc c'est ce qui a motivé vraiment la population à ne pas comprendre cette situation, tout en accusant pour les proches qui sont à côté. Peut-être que ce sont eux, puisque nous avons vécu des situations pareilles.
Le gouvernement burkinabé demande aux populations le calme et la retenue pour pouvoir ensemble lutter contre le terrorisme.
La volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces terroristes-là n'aient pas raison.
Siméon Sawadogo, ministre de l'administration territoriale.
Nous avons rencontré les autorités morales, coutumières et religieuses pour leur demander, donc, dans un premier temps, d'appeler à l'apaisement. C'est ce que nous avons fait avec le chef de Arbinda, avec l'imam et avec les personnes ressources. Donc c'est pas en faisant en sorte que les populations quittent les villages qui peut être une solution. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de possibilité que ces terres-là puissent rester arides. Le gouvernement a travaillé pour la sécurisation de cette zone-là.
Et le gouvernement est convaincu que les auteurs de ces actes seront traduits devant la justice.
Et également la certitude que les acteurs commettront une suite judiciaire dans ce qui a été posé.
Rémi Dandjino est le porte-parole du gouvernement.
Nous sommes dans un état de droit que la sécurité va être mise en œuvre pour garantir la paix et la quiétude des acteurs. Et donc demander aux différentes populations de faire confiance donc à la sécurité et à la justice pour ce qui est de la recherche des coupables et la manifestation de la vérité.
La crise a fait des blessés et plusieurs centaines de déplacés, majoritairement des femmes et des enfants. Toujours le même week-end dernier, des hommes armés venus des villages frontaliers du Burkina et du Ghana ont perpétré une attaque contre le domicile du chef coutumier de Zouaga dans le centre-est. Là, 8 personnes ont été tuées, avait indiqué le gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Algérie, au lendemain de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, le nouveau gouvernement a pris ses premières mesures hier, dont plusieurs d'ouverture en direction de la presse, de l'opposition, des associations et des syndicats. Pour décrypter les toutes premières mesures du gouvernement de transition, Claire Morin-Gibourg a joint le journaliste indépendant et analyste politique Zouer Aitoumhoub.
Les dernières mesures prises par le gouvernement concernant l'accréditation de nouveaux partis politiques, l'assainissement des médias, notamment l'octroi de la publicité publique. Il s'agit peut-être d'une bonne chose, d'une bonne mesure qui permettrait justement à tout le monde de profiter et peut-être c'est une mesure aussi de transparence qui permettra éventuellement plus de liberté d'expression pour tout le monde. Deuxièmement, on a toujours refusé l'accréditation de partis d'opposition notamment. Et ces dernières années, on a eu une profédération de partis politiques, ce que nous avons appelé chez nous une inflation de partis politiques. Mais malheureusement, ces partis politiques ont été tous des soutiens directs pour le pouvoir en place. Ça a toujours été un gros problème en Algérie. Aujourd'hui, la mesure est satisfaisante. Ça va dans le bon sens et espérons que le ministère de l'Intérieur réagira positivement et procédera éventuellement à l'accréditation de nouveaux partis politiques plus ou moins crédibles. Cependant, ces mesures peuvent aussi renseigner sur beaucoup de choses. notamment, est-ce que le pouvoir se dirige réellement aujourd'hui vers une ouverture démocratique réelle, qui veut dire la concurrence sera permise pour tout le monde, à la fois pour la presse et aussi pour les partis politiques.
Comment l'opinion publique ou les mouvements citoyens ont accueilli ces premières mesures du nouveau gouvernement ?
Pour être franc, en fait, les citoyens ne les intéressent pas des mesures qui ont été prises aujourd'hui par le nouveau gouvernement, parce que tout simplement, le nouveau gouvernement est décrié par la population. Une des revendications que les Algériens vont éventuellement porter le vendredi prochain serait justement la dissolution de ce gouvernement et l'élection d'un gouvernement d'union nationale et de compétences. Donc, dire que les Algériens s'intéressent réellement à ces nouvelles mesures, je crois que c'est un non-événement pour eux, mais le reste, les nouvelles mesures peuvent renseigner sur une éventuelle ouverture du pouvoir en place, représenté aujourd'hui par l'armée, vers peut-être une période de transition dirigée, mais avec un peu plus d'ouverture et de transparence. Le problème, pour l'instant, on ne connaît pas réellement quelle est la feuille de route qui a été décidée par le pouvoir en place, parce que réellement, le régime n'est pas encore tombé. Donc, cela dépendra de beaucoup de choses. D'abord, attendons la réaction des Algériens ce vendredi, si la mobilisation sera maintenue, et regardons aussi quelles sont les nouvelles revendications qui vont porter ce vendredi, en fonction, en fait, de la mobilisation citoyenne, que les choses vont évoluer. Autrement, il est difficile, voire impossible, de savoir ce qui va se passer les prochaines semaines.
Le journaliste indépendant et analyste politique Zouhair Eit Mohoub, joint à Alger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme en République démocratique du Congo, où la propagation de l'épidémie d'Ebola n'a jamais été aussi rapide. Selon l'OMS, le nombre de cas a augmenté à un rythme jamais atteint en 8 mois. Au 2 avril, l'organisation a enregistré un total de 1092 cas et plus de 600 décès. Morgane Guiriec a joint le docteur Ibrahima Fall, directeur général adjoint en charge de la réponse aux urgences à l'OMS.
Aujourd'hui, la transmission se maintient dans 12 zones de santé. Donc, c'est géographiquement limité. Par contre, l'intensité de la transmission est importante à Katoa et à Butembo.
L'accélération de la propagation est liée donc au conflit. Parlez-nous des difficultés rencontrées à cause de ces violences.
Regardez le pic qu'il y a eu à Katoa et Butembo la semaine passée. C'est un pic qui était attendu compte tenu des interruptions qu'il y a eu dans la réponse 2 à 3 semaines avant, à cause de l'insécurité et de la réticence de certaines populations dans certaines zones. Les activités de prévention, telles que la vaccination autour des cas, les activités de désinfection des structures sanitaires ou dans les maisons ont été retardées. Et chaque fois que ces activités sont retardées, c'est un risque d'infection pour la population qui est en contact avec les cas. Et cela s'est ressenti 2 semaines après. Quand on regarde les autres zones qui ont été affectées avant, comme Béni, on a connu des phénomènes similaires. Et ça a pris pratiquement 2 mois pour pénétrer la communauté, avoir une entente sur la manière de travailler ensemble avec la communauté pour contrôler l'épidémie là-bas. Donc aujourd'hui, nous sommes encore à cette phase où l'apport de la communauté, l'appropriation de la lutte contre Ebola par la communauté, est un élément essentiel pour arriver à bout de cette épidémie.
Une autre difficulté, toujours liée donc à ces conflits, hein, c'est la mobilité de la population.
Nous avons beaucoup de populations déplacées en interne et chaque fois qu'il y a des attaques par des groupes armés, ces populations se déplacent. Très souvent, nous avons des contacts à haut risque qui se déplacent à un endroit plus sûr, si un risque de propagation plus important.
Dans ce contexte, comment est-ce que vous envisagez l'éradication de cette épidémie ?
Nous travaillons de façon très rapide avec les communautés pour adapter les stratégies de réponse, parce que ce qui est valable à Mangina, à Béni, n'est pas valable à Bourg ou à Katoa. C'est pour cette raison que nous allons organiser des dialogues communautaires. Écouter la communauté, comprendre leurs préoccupations et les amener à travailler avec nous dans la réponse. Par exemple, à Katoa, nous avons formé une quarantaine de jeunes de cette communauté qui travaillent aujourd'hui dans la réponse contre Ebola.
Le docteur Ibrahima Fall, directeur général adjoint en charge de la réponse aux urgences à l'OMS, joint à Butembo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console. Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.